Georges Sorel, le penseur syndicaliste, et puis Benito Mussolini, le futur Duce. A priori, on imagine mal ces deux-là ensemble.
C'est vrai, ça semble assez éloigné comme figure.
Et pourtant, si on regarde de plus près, notamment avec des textes comme Sorel et Mussolini, Mein Cailleuse et Rosaire, ben on trouve des liens assez forts en fait. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est un peu de comprendre comment Sorel, l'intellectuel français, a pu influencer Mussolini, le dictateur italien.
Oui, regardez leurs racines communes, leur rejet de la démocratie libérale, c'est ça qu'on va explorer.
Exactement. Alors, allons-y. Pour commencer, il y a cette structure familiale quand même. C'est assez similaire.
Ah oui, ça c'est intéressant. Le père rouge, comme on dit.
Oui, artisan, militant. Chez Sorel, c'est un négociant déchu, je crois. Et chez Mussolini, un maréchal ferrant, socialiste, très anticlérical.
Appelle Benito pour Benito Juarez, le laïc mexicain.
Ah oui.
Mais il y a cette mère très pieuse. Du coup, on parle d'une intensité volcanique chez lui.
Une tension, en fait, dans les deux cas. Des effets différents, peut-être?
Bah, c'est une piste, oui. Ce mélange père, mère, travail, foi, ça crée peut-être un terrain particulier.
Une forme de révolte, oui, mais aussi peut-être une quête inconsciente d'ordre, de sacré, qui viendrait de la mère. C'est pas mécanique, hein, mais ça peut façonner une vision du monde.
Et cette vision du monde, elle se voit bien dans leur rejet très fort du parlementarisme.
Ah oui, alors ça c'est commun. Le parlementarisme, comme on dit parfois. On parle et on ment.
C'est ça. La corruption, la déconnexion. Exactement. Sorel, dans ses réflexions sur la violence, il attaque ce parlementarisme corrupteur.
Lui, il veut l'action directe, la solidarité ouvrière et surtout ce fameux mythe de la grève générale.
Le grand soir, en quelque sorte.
Voilà. Un mythe pour mobiliser, pour renverser l'ordre bourgeois.
Et Mussolini, lui, il prend ça et il passe à l'acte. Mais de façon brutale.
Ah bah oui, pour lui, la démocratie, c'est une illusion. Le pouvoir, ça se prend.
Les squadristes, c'est milices violentes.
C'est l'incarnation de ça. La force plutôt que les urnes. L'action directe.
Et ça pose la question, bien sûr, de la légitimité perçue de la force quand un système semble défaillant.
Tout à fait.
Quand les institutions semblent vides, corrompues, l'appel à la force devient dangereusement séduisant. On l'a vu souvent, ça.
Et là, on touche vraiment au cœur de l'influence de Sorel. Avec cette idée de violence.
Oui, mais attention, pas de n'importe quelle violence.
Non, pas la brutalité pour la brutalité. C'est vu comme quelque chose de régénérateur, presque moral. Un acte quasi sacré qui refonde l'individu, le groupe.
C'est ça, et Mussolini le dira lui-même. Georges Sorel a été mon maître. C'est une phrase forte.
Très forte. Mais il faut bien comprendre ce que Sorel entend par mythe, alors.
Oui, c'est crucial. Chez Sorel, le mythe, ce n'est pas une fable, une histoire fausse. C'est un ensemble d'images, une construction mentale très puissante.
D'accord.
Qui provoque des émotions fortes et qui pousse à l'action collective. La grève générale, c'est son exemple parfait. C'est une expression de volonté, dit-il. Pas une analyse froide. Ça sert à agir.
Et Mussolini, qu'est-ce qu'il fait de ça?
Ben, il prend ses outils, le mythe, la violence vue comme régénératrice, et il les applique à la nation italienne.
Ah oui, oui, il déplace le sujet. Ce n'est plus la glace ouvrière.
Non, c'est la nation. Le fascisme va créer sa propre liturgie. Les saluts, les chemises noires, les grands rassemblements.
Tout un décorum.
Exactement. Pour créer une unité nationale mythique, souder le peuple autour du chef, de l'État.
Et il y a aussi ce rapport au catholicisme chez Sorel, qui est intéressant.
Oui, il admire ce qu'il nomme le catholicisme de combat, l'église militante. Pas forcément parfois perso, hein.
Non, plutôt pour l'aspect combatif.
Voilà. Il voit dans la capacité historique de l'église à lutter, à maintenir un mythe fort, une source de vitalité. Pour lui, le déclin religieux vient de la perte de cette énergie militante. C'est la force organisée qui l'intéresse.
Et pourtant, leurs destins vont être très différents.
Radicalement différents, oui. En 1922, Sorel meurt. Il reste un penseur influent, mais en retrait.
Et la même année?
Voilà.
Mussolini marche sur Rome, prend le pouvoir. La théorie cède la place à l'action politique pure et dure.
Mais on voit quand même l'héritage. Mussolini met en place des choses qui rappellent Sorel.
Oui, le corporatisme au début, cette idée d'organiser l'économie par métier, sous l'autorité de l'État. L'idée d'une refondation morale par l'action, le mépris de la finance, ça résonne avec Sorel.
Même s'il y a des nuances importantes.
Bien sûr, Sorel restait méfiant vis-à-vis de l'Église comme institution. Il était plutôt stoïcien, agnostique.
Alors que Mussolini, lui, va utiliser le catholicisme de façon très pragmatique.
Politique. Les accords du Latran, c'est ça?
Exactement. C'est instrumental. Si on prend un peu de recul, cette relation Sorel-Mussolini, elle montre bien comment une pensée radicale,
même si l'auteur n'approuve pas tout,
peut fournir des outils, une forme de légitimation, à une action politique tout aussi radicale. L'un pense la rupture, l'autre l'impose.
Bon, alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient ?
Ben, d'abord, cette base commune inattendue, la main cailleuse du père, le rosaire de la mère.
Oui, cette matrice familiale. Ensuite, ce rejet commun de la démocratie libérale jugée molle, corrompue.
Et puis surtout, cette fascination pour l'action directe, la violence comme énergie morale et le pouvoir du mythe pour mobiliser les foules.
C'est ça.
Peut-être une dernière pensée pour aller plus loin. Sorel n'était pas fasciste, hein, soyons clairs. Et Mussolini n'était pas un mystique au sens propre.
Non, bien sûr.
Mais leur rencontre dans une époque de crise, de perte de sens, elle nous dit quelque chose sur une dynamique qui peut revenir.
C'est-à-dire ?
Quand le débat démocratique semble bloqué ou impuissant, eh bien, l'appel à la vertu de force, au grand récit qui rassemble sans discuter, ça peut redevenir une tentation.
Une interrogation sur la permanence de ces mécanismes, finalement.
Voilà. Bien au-delà de Sorel et Mussolini eux-mêmes.